Bienvenue sur le podcast Nées en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessibles des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leurs récits d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que nous célébrons toutes ensemble, hein, les auditrices, la personne que j'ai en face de moi et que je vais bientôt vous présenter, et moi-même, voilà, nous célébrons les 3 ans du podcast. Déjà 3 ans, j'ai du mal à réaliser, j'ai l'impression que je viens juste de commencer. Et voilà, la croissance du podcast est à hauteur de la croissance de Cerise, qui était bébé quand j'ai commencé. Et donc, je me revois en fait encore avec ce porte-bébé en train de dandiner des fesses, voilà. Et ce petit mouvement que j'ai l'impression qu'il est encore en moi, ce balancement-là. Eh bien, j'étais là, debout, devant ces premières femmes qui sont venues enregistrer le podcast. Et donc, voici aujourd'hui la 40 et quelques yème femme à venir témoigner. Et j'ai nommé Vanessence. Bonjour Vanessa.
Coucou Cécile.
Merci d'être là aujourd'hui et merci de m'honorer de ta présence pour cet épisode spécial. Tu vois, je voulais faire quelque chose de spécial et j'ai trouvé qu'avec toi ce serait particulier, ben, parce qu'on travaille ensemble, on a une relation de doulamie, j'aime bien ce terme-là. Et donc voilà, merci d'être là.
Avec plaisir, et donc, honneur, enfin.
Est-ce que tu veux te présenter comme tu le souhaites aujourd'hui?
Oui. Eh bien, voilà, je m'appelle Vanessa et oui, je suis doula. C'est grâce à notre formation Quantique Doula qu'on a fait ensemble, qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Et voilà, j'habite à Bruxelles, j'ai 40 ans et je suis maman de 2 enfants. Il y a Joy qui a 7 ans et demi, c'est important, et demi. Et Colin, le petit coco qui s'en va vers ses 5 ans cet été. Et puis dans notre famille, il y a aussi Ludo, le papa. Et voilà, on... quoi dire, on a... Ouais, on a une petite vie de famille ici à Bruxelles et puis moi je mets tout mon cœur voilà, à développer mon activité que tu as nommée Vanessence pour être au service des femmes et des familles qui vont accueillir un bébé voilà, dans leur vie et je suis toute émue d'être aujourd'hui à ton micro. Je pense qu'on en parle depuis qu'on s'est rencontrés. Je pense déjà il y avait eu déjà la question d'un jour témoigner à ton micro et puis voilà, ce jour est arrivé.
C'est juste de le faire à ce moment-là, certainement.
Ouais.
Alors, chère Vanessa, est-ce que on va donc tisser toute une histoire avec toi pour comprendre ton cheminement, quelle naissance tu as eue, enfin, quels enfantements tu as eu. J'aime beaucoup ce terme. Alors, peut-être on peut partir du couple. Voilà, comment est-ce que vous avez eu ce premier bébé?
Il n'est pas du tout arrivé tout de suite. Alors, Ludo et moi, on s'est rencontrés pendant nos études d'architecture. On était tous les deux étudiants en école d'architecture et je venais d'avoir 20 ans. Voilà, c'était il y a la moitié de ma vie là maintenant. et voilà, on était... ouais, c'est moi qui ai eu un flash comme ça vers lui et puis j'ai fait le premier pas lors d'une soirée et puis voilà, notre histoire a commencé. Et donc on était encore étudiants, on était dans ce mood-là de notre jeunesse, encore insouciante et festive. Et donc on a, voilà, c'était, ouais, c'était Moi, c'est une première histoire pour moi, une première vraie grande histoire qui a démarré. Et on n'a pas du tout à l'époque parlé enfant, voilà, c'était pas un sujet, on était encore, je pense, voilà, trop dans ce mood étudiant pour en parler, pour mettre des mots là-dessus. Et puis, on a cheminé comme ça ensemble pendant cette période des études. Et puis, après, on a emménagé ensemble. Sur Bruxelles, parce que donc nos études c'était à Tournai, et on a commencé notre vie professionnelle ensemble, à s'installer, avoir notre indépendance, les premiers boulots, voilà, on a vécu tout ça ensemble, sans voilà, se projeter non plus dans un avenir tout tracé non plus. On se laissait vraiment un peu porter et vivre avec ce qui venait à nous. Je pense qu'on était très très focus boulot, vraiment, on était à fond parce qu'on était tous les deux très passionnés par l'architecture. J'ai l'impression qu'on on vivait à travers ça, je veux dire, tous nos vacances c'était que des voyages pour aller explorer, découvrir des bâtiments et des villes. Faut dire que c'est un boulot où c'est assez connu qu'on, dans les agences d'archi, on fait beaucoup d'heures, enfin voilà, on travaillait vraiment très 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 fort. On faisait beaucoup la fête aussi, beaucoup de voyages, enfin voilà, on était dans ce mood-là. Et puis assez rapidement, on s'est aussi lancé dans un projet immobilier d'achat. Je crois que j'avais 23 ans à l'époque, donc... Non, j'étais plus âgée que ça. Attends, 23 ans, c'est quand j'ai fini mes études. Bon. Mais voilà, je crois que c'est après 3 années voilà, de nos premiers jobs qu'on s'est lancé dans un projet immobilier qui nous a aussi pris énormément de notre temps et notre énergie et qui nous a vraiment absorbés et qui a été beaucoup plus long que prévu. Ça a été un projet... un investissement voilà, de rachat d'un bâtiment industriel en groupe, en copropriété. Et on a eu énormément de soucis qui a fait qu'un projet qui devrait durer quelques années a finalement duré presque 5 à 7 ans de notre vie. Et de nouveau, on était complètement trop pris par ça et dans l'incapacité de se projeter dans une vie de famille, en fait, qu'il n'y avait pas la place à ce moment-là pour s'imaginer avoir un enfant avec cette croyance qu'il faut voilà, avoir la maison avec la chambre pour accueillir le bébé, etc. Et qu'on n'était pas du tout dans ces conditions-là. Et que, voilà, je crois qu'on était tellement occupés avec ça qu'il n'y avait pas non plus l'espace. On ne s'était pas projeté, programmé en se disant voilà, on veut avoir des enfants, on n'avait pas planifié dans le temps, c'était vraiment se laisser vivre. Et puis, en même temps, moi je savais que, je pense que je savais depuis toujours que j'aurais des enfants. Je suis issue d'une famille nombreuse. J'ai deux sœurs et deux frères, on était 5 à la maison. Donc, pour moi, c'était assez comme une évidence que la famille, c'était quelque chose de chouette, la fratrie, avoir des enfants. C'était quelque chose de plutôt, pour moi, joyeux et ça faisait sens. J'aurais cru, avec le recul maintenant, que j'aurais eu des enfants plus tôt, plus jeunes, peut-être sur le modèle de mes parents qui ont commencé, peut-être comme ces générations-là, avoir des enfants plus tôt. Et moi, il y avait vraiment le côté, finalement, travail et carrière, entre guillemets, qui a pris beaucoup de place avant que vraiment le désir devienne omniprésent d'avoir des enfants. Et Ludo, lui, lui aussi, il se voyait papa, mais lui, il avait... Il a un frère, voilà, mais c'est important pour lui aussi de fonder une famille un jour, mais on se mettait pas la pression. Qu'est-ce qui a fait le déclic, je dirais avec tout cette histoire de l'appart et des travaux, ça nous a vraiment pas mal usé et ça nous a pas mal... Enfin, ça a été intense et difficile. On a vécu des choses un peu compliquées, avec des insécurités, des difficultés financières et beaucoup de choses. Et c'était déjà une longue histoire avec tout, ses hauts, ses bas. À ce moment-là, on a traversé une période difficile, crise de couple qui nous a amené à nous poser la question de... comme on arrive à un chemin en Y, quoi. Est-ce qu'on continue ensemble à construire quelque chose ou est-ce qu'on s'arrête là? Et c'est de là que, de cette crise-là, que a émergé, en tout cas surtout chez Ludo d'ailleurs, cette espèce d'électrochoc de dire mais en fait, moi j'ai envie d'avoir des enfants avec toi, j'ai envie qu'on fonde une famille, enfin des choses qu'en fait on se parlait peu en fait finalement, ce désir d'enfant qui était là chez tous les deux, mais que... qu'on prenait peu le temps d'évoquer vraiment profondément, en fait. Et là, du coup, ça a réveillé un petit peu des choses où on a eu l'envie de fonder cette famille qu'on avait suffisamment donnée dans nos boulots. On arrivait à la fin, en fait, aussi de cette aventure immobilière où on pouvait enfin se projeter aussi dans quelque chose où on pouvait plus être posé, installé... chez nous, dans un cocon qui serait plus propice, à pouvoir accueillir une famille et pouvoir être plus serein par rapport à la situation qu'on avait traversée. Donc oui, c'est venu comme ça un peu, ce désir.
Est-ce que tu avais une contraception? Est-ce que tu as arrêté cette contraception? Et comment ça s'est passé, en fait, cette phase 2 de conception, sans tous les détails, bien sûr.
ça faisait déjà pas mal d'années que je n'avais plus de moyens de contraception, que je sais plus, la pilule à un moment donné, je sais pas, il y a eu un truc où j'en avais plus envie, je sais pas, comme une prise de conscience de plus à vouloir avoir cette charge aussi... contraceptive, et on était finalement ensemble depuis longtemps, et au pire, si ça arrivait, ça aurait été ok, je pense, malgré tout, donc j'avais, il n'y a pas eu ce truc de devoir arrêter la pilule ou un autre moyen de contraception, de cet ordre-là hormonal, j'avais déjà mon corps qui était finalement un peu libéré de ça, avec des cycles naturels. À l'époque, je n'étais pas du tout très consciente de mes cycles et tout ça. On faisait attention, on se protégeait avec des préservatifs et autres. Et du coup, c'est arrivé très vite. Puisque quelque part mon corps, je pense, était prêt. Et je pense qu'entre le moment de la décision d'avoir cet enfant, qu'on a essayé sans se protéger, et au bout de 3 mois, je pense que j'étais enceinte.
Alors, à ce moment-là de ta vie, quelle était, toi, ta vision de l'accouchement? Qu'est-ce qui nourrissait ton imaginaire? Parce que tu en avais forcément un, en fait, hein, même si on n'y pense pas toute la journée, on a forcément des images comme ça. Quel était ton héritage familial, tu vois? Avec quoi tu partais, en fait?
Oui, alors... moi, j'en avais une vision... assez comme quelque chose de vraiment naturel, en fait, parce que donc ma maman, je l'ai nommée, a eu 5 enfants, enfin il y a eu 6e avec un premier bébé, arrêt de grossesse tardif, avec aussi un accouchement voix basse, et puis tous les 5 elle nous a eu par voix basse, sans péridurale, et le récit qu'elle en a pour moi était tout sauf quelque chose d'un événement traumatique, et donc plutôt doux, et moi-même j'étais un gros bébé par exemple, et le récit de ma propre naissance par mes parents, à chaque fois c'est mon papa qui raconte à quel point il y avait un fou rire dans la salle de naissance, que c'était quelque chose de joyeux, en tout cas moi, ma propre naissance. Mais ça, je l'ai su assez récemment. Finalement, je les ai un peu plus questionnés d'ailleurs à ce sujet-là, que mes parents s'étaient intéressés ils étaient en recherche, en tout cas, d'hôpitaux qui avaient le label Frédéric Le Boyer, qui a vraiment été précurseur aussi sur cette approche de naissance plus douce pour les bébés, l'accueil du nouveau-né de manière respectée. Et notamment, par exemple, mes parents me racontaient qu'ils avaient dû ramener une petite baignoire dans la salle d'accouchement pour pouvoir donner le premier bain dans la même pièce, et pas que le bébé soit emmené ailleurs pour faire les premiers soins, mais que ça puisse être fait à proximité de la maman, de ma maman du coup, par mon papa, que l'importance du pot à pot, ils avaient fait ramener une playlist pour... Enfin, à l'époque, c'est pas avec nos petits playlists comme nous on le fait maintenant, donc ça devait être un espèce de truc cassette, je sais pas quoi. Et accompagné par sage-femme et kiné, qui avait suivi les grossesses de ma maman, donc... quelque chose d'assez proche finalement de ma vision actuelle, en tout cas de ce que devrait être les naissances, et l'allaitement aussi, allaitement de tous les cinq, allaitement long, avec des histoires de mon papa qui raconte quand on avait, enfin je sais plus si c'était de moi ou mes sœurs, je crois qu'il Oui, il y a toujours une anecdote de ma petite sœur qui avait 2 ans, qui disait de l'autre côté, parce que un enfant qui parle en fait, si c'était pas commun, en tout cas chez tout le monde, qu'on allait si longtemps un enfant et qu'il y ait la parole, etc. Et tout. Donc, moi j'étais baignée dans ces histoires-là. J'ai une sœur aînée, du coup je suis la deuxième, et j'ai ma sœur aînée qui, elle. Elle a eu 2 filles avant que moi je sois enceinte, qui sont du coup un peu plus grandes que mes enfants. Et la première, elle a eu un accouchement, disons, que je pourrais nommer classique à l'hôpital. Mais pour sa deuxième, elle a donné naissance dans une maison de naissance à Namur. Et donc déjà, j'avais proche de moi aussi l'exemple de ma grande sœur qui avait fait cette démarche d'un accouchement avec sage-femme en maison de naissance. Pour moi, c'était assez évident d'aller vers ces démarches-là aussi.
Donc a priori, tu partais pas avec quelque chose à guérir dans ton histoire, c'est ça en fait, hein?
Ouais.
Et la vision commune, c'est-à-dire ce qu'on voit dans les films et ce qu'on entend la plupart du temps, tout ça, c'est pas quelque chose qui, a priori, t'influençait plus que ça, finalement.
Non, j'étais plus... L'héritage familial, comme tu disais, était... J'ai l'impression que c'est ce qui m'a impacté en plus en premier lieu, et comme c'était quelque chose d'assez... avec une belle empreinte, c'était un peu... Je me dis, si ma maman, ma sœur et ça ont vécu ça, il n'y a pas de raison que moi je vive autre chose, quoi.
Trop bien, fantastique. C'est ce qu'on souhaiterait pour beaucoup, n'est-ce pas?
Ouais.
Alors, te voilà enceinte. À partir de quand tu commences? Parce qu'on le dit souvent, l'accouchement, ce n'est pas le premier truc auquel on va penser. C'est déjà un choc de comprendre déjà qu'on va donner la vie, qu'on a un petit être qui est en train de grandir. Mais à quel moment est-ce que toi, tu as commencé à réfléchir aux choix qui s'offraient à toi? Est-ce que tu as fait ça avec des sages-femmes? Et comment ça s'est passé aussi pour emmener Ludo un petit peu avec toi? Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais voilà, si tu peux nous raconter un peu ça.
Ouais. Je crois que vraiment c'est parti de cet exemple de ma sœur en maison de naissance. Et du coup, je pense que les premières choses que j'ai faites, c'était de chercher maison de naissance, mais à Bruxelles, vu que c'était pas à Bruxelles. Et du coup, je pense qu'assez rapidement, j'ai trouvé le cocon, qui est un gîte intra-hospitalier dans l'hôpital Erasme. Donc c'est vraiment comme une maison de naissance, mais qui a la particularité d'être au sein d'un hôpital, et donc avec des suivis uniquement sage-femme. Et donc je ne me suis pas posé beaucoup plus de questions, que ça me paraissait assez évident que j'allais prendre contact là-bas, en tout cas, Je réfléchis, je pense, oui, c'est ça, j'ai très rapidement fait la démarche de les contacter pour un premier rendez-vous. Et Ludo, ben, je pense que oui, comme beaucoup de couples que je connais qui se dirigent vers le cocon, c'est le côté rassurant d'être dans le milieu hospitalier avec la fameuse idée de se dire, ben voilà, s'il y a quoi que ce soit qui a besoin d'être transféré, on a juste à descendre un étage. Ben voilà, c'est vraiment moi. Et moi aussi, je pense, enfin, ça me paraissait, ouais, une option tout à fait confortable. Et j'étais plutôt confiante. Et on a fait ce premier rendez-vous là-bas. Et je pense qu'on était assez conquises en rencontrant les sages-femmes. On se sentait vraiment bien entourées, bien accueillies pour être accompagnées dans cette grossesse.
D'accord. Comment ça s'est passé d'ailleurs ta grossesse? Est-ce que tu as aimé être enceinte? Voilà, comment ça s'est passé? Et si tu peux nous faire le fil, tu sais, de voilà, ce basculement de conscience vers la fin de la grossesse, comment tu as vécu ça aussi, le troisième trimestre?
Alors moi j'ai eu une grossesse que je qualifierais d'assez sereine, je pense. J'ai eu la chance de pas avoir de trop gros maux de grossesse, comme on peut le dire aussi, qui m'auraient pourri la vie ou quoi que ce soit. J'ai pas eu ces grosses, grosses, grosses nausées ou tout ça. Et donc c'était, bon, bien sûr, la fatigue, hein, ça, c'est sûr qu'il y a de la fatigue que le corps n'a pas l'habitude d'un coup de vivre. Et qui ralentit un peu, mais malgré tout, j'ai eu une grossesse vraiment. Je me sentais bien. J'aimais voir mon ventre, grossir. Et puis, j'étais assez heureuse et avec beaucoup de plénitude comme ça. Et après, en même temps, j'étais quand même encore toujours très focus dans mon travail. Et oui, j'avais dit que l'appartement, ça se terminait, mais en fait, tout n'était pas encore fini. Et du coup, on s'est mis un coup de pression pour justement se dire, il faut absolument tout finir, les travaux, parce en fait, on a fait énormément nous-mêmes les travaux d'aménagement de l'intérieur. Et il y avait encore toute une série de choses. Il y avait une cuisine à faire et on faisait tout nous-mêmes. Et donc, ça a été un peu le... Ouais. La pression de pendant que j'étais enceinte, c'est là, bon, voilà, maintenant il faut tout finir parce qu'après ce sera plus possible. On savait que après il y aurait bébé et que on aurait
Et
plus
vous habitiez vraiment dans ce lieu-là quand même?
oui
Et la
ouais
cuisine, vous faisiez
ah ben
camping?
c'était camping, ouais. Ah
Excellent.
oui, on a vécu vraiment dans les travaux, dans la poussière et tout ça pendant longtemps. Et là, il fallait terminer. Genre, il y a un endroit, il n'y avait pas encore l'escalier, il y avait une échelle. Et enfin, voilà. Il fallait vraiment qu'après, ce soit clôturé. Donc, ça, c'était encore fort, fort présent dans ce qui nous occupait. Et j'ai changé de boulot, oui, en fait c'est là que c'est arrivé, j'ai changé de travail, c'était avant que je tombe enceinte en fait déjà, voilà, c'est ça, avant que je tombe enceinte j'avais changé de travail et voilà, du coup il y avait pas mal de changements aussi et du coup d'investissement où je m'investissais dans un nouveau travail et donc c'était aussi prenant pour moi. Donc voilà, la grossesse se passait comme ça. À la fois j'étais bien et en même temps j'étais pas hyper focus non plus là-dessus, j'étais pas mal occupée sur tout le reste de ma vie un peu normale disons et je me rends compte que j'étais quand même pas mal occupée à réfléchir à un peu toutes des choses un peu pratiques et matérielles à prévoir. Ah oui, si, par contre, quand même, pendant cette première grossesse, je me suis quand même octroyé pas mal de moments bien-être aussi pour moi, quand même. Il y a eu le yoga prénatal. C'était la première fois que je faisais du yoga. J'avais jamais pratiqué le yoga avant de tomber enceinte. C'était pas un univers que je connaissais. Ma porte d'entrée, ça a été la grossesse. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, depuis, je continue ça et là à pratiquer. Mais c'était, voilà, premier aussi, reconnexion au corps, parce que c'est vrai que j'étais pas très dans l'écoute de mes ressentis, du corps, etc. Et la grossesse, ça a été un des premiers déclics de, ouais, d'être plus à l'écoute aussi, d'être en connexion avec moi-même et mon bébé qui grandissait. Et j'ai fait aussi une préparation aquatique avec une sage-femme. On allait dans un bassin et faire des petits exercices de respiration sous l'eau. Mais c'était un temps aussi pour déposer, déposer l'émotionnel de ce qu'on vivait. On le faisait en couple à deux. Et puis il y avait de la relaxation dans l'eau. Voilà, c'est vraiment prendre du temps pour être en connexion avec moi-même, avec le bébé. C'était mes petites pauses, mes petites bulles de bien-être, voilà, dans ce quotidien qui était encore bien rempli et bien rythmé par tout le reste. Et puis il y avait les préparations à la naissance avec les sages-femmes au cocon, voilà, qu'on suivait un peu le parcours classique de ce qui nous était proposé. Avec le recul, bien sûr, maintenant j'ai beaucoup plus de connaissances que je pouvais en avoir à l'époque, et je pense que je prenais, voilà, ce qui m'était transmis, mais sans chercher beaucoup plus loin les informations. À l'époque, j'avais juste eu un livre de ma sœur qui m'avait prêté un livre avec pas mal de récits de naissance à la maison. En fait, c'était un livre qui avait tous ces témoignages-là. Et donc ça aussi, ça me nourrissait de récits inspirants. En fait, là, moi, c'était pas un projet à la maison, mais peu importe, c'était quand même un projet qui s'en rapprochait très fort. En maison de naissance, c'est la même chose, c'est juste qu'on n'est pas chez soi. Et que l'accouchement, il est respecté et physiologique. Et ça me suffisait, voilà, rien que ça, voilà, c'était juste. J'étais très active toujours, je suis cycliste, et j'ai... D'ailleurs, mes deux grossesses, j'ai toujours roulé un vélo jusqu'au bout. Donc, toujours... voilà, je me sentais pas ralentie ou diminuée, même pas à la fin de grossesse. J'étais toujours en forme et... ouais, dans cette vie active, à tel point que, ouais, qu'en fait, bon, j'arrive déjà vers la toute fin de grossesse, je sais pas, je réfléchis s'il y a autre chose que j'aurais envie de nommer avant. En tout cas, oui, peut-être juste ça, c'est que Ludo, il était là, il était présent au rendez-vous au cocon, il trouvait sa place, puisqu'il était vraiment inclus dans les préparations là-bas, où on lui montrait des techniques pour dévier la douleur en faisant des points de pression ailleurs, des choses comme ça, d'être écouté, entendu aussi. C'était vraiment chouette que l'accompagnement soit vraiment ouais, le couple ensemble. Et voilà, mais on se projetait pas trop dans l'accouchement. Moi, je suis toujours quelqu'un d'assez un peu confiante et optimiste, et voilà, et comme j'avais pas de grosses peurs et de ouais, j'avais pas cette, ouais, il y avait pas de grandes peurs. Voilà, j'y allais un peu confiante et je me sentais bien accompagnée avec les sages-femmes et avec le projet de naissance. Je crois que j'avais écrit un projet de naissance, ouais. J'avais dû chercher un modèle, je pense, sur Internet à l'époque, d'essayer d'aller reprendre un peu les choses qui semblaient des choses importantes et qui l'étaient pour moi aussi. Mais bon, en fait, c'était un projet qui collait totalement à l'approche qui est proposée au cocon. Donc, ouais. À peu près 3 semaines avant la date du terme. On était chez des amis un dimanche soir pour un dîner, et puis on discutait, et puis tout le monde raconte un peu, on parlait d'accouchement, bien sûr, parce qu'on se rapprochait du terme, et on plaisantait sur le fait qu'on n'avait toujours pas fait la valise pour partir à la maternité, et on se dit, ah bon, ouais, peut-être qu'il faudrait y penser, de finir de se préparer. Et là, en fait, pendant le repas, j'ai fait plusieurs allers-retours aux toilettes. parce que c'était comme j'avais des sensations humides dans ma culotte et j'allais aux toilettes et je prenais du papier toilette pour un petit peu je sais pas pour absorber. Je dis mais bon c'est bizarre au début je dis mais je me fais pipi dessus et qu'est-ce que c'est et je crois que j'ai fait vraiment un gros déni à ce moment-là, un énorme déni en disant bah non, enfin si au fond de moi je me dis ben ça pouvait être le liquide amniotique, mais je voulais pas y croire parce qu'on était c'était trop tôt. Enfin, dans ma tête c'était genre bah non c'est pas pour maintenant, c'est trop tôt. Et je dis trop rien, puis on rentre à la maison, et je me souviens que je me suis mis dans la baignoire aussi pour voir un peu ce qui s'écoulait, ce que c'était. Et en fait, je savais que c'était du liquide amniotique, mais encore une fois, j'ai pas voulu m'alarmer et me dire, ah mon Dieu, il faut aller à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Par contre, du coup, j'ai fait cette valise de maternité ce soir-là, en rentrant du repas. J'ai vite préparé tout le sac, j'ai dit à Ludo, ouais, je sais pas, je crois que là il faut faire la valise, mais sans plus, je lui dis pas, je l'alarme pas et je dis pas, il faut aller voir l'hôpital, je perds du liquide, mais c'était un petit peu par-ci par-là, donc rien de. Alors, vraiment, c'est pas la grosse perte des os, quoi. Et le lundi matin, je pars au travail, comme si de rien n'était, parce qu'il y avait ce côté. Je suis pas prête. J'étais vraiment obnubilée par. Ouais, je peux pas partir comme ça, tout lâcher. Je travaillais dans une administration communale et j'étais chef de projet. Voilà, avec pas mal de responsabilités. Et les lundis matins, on avait des réunions d'équipe où je faisais chaque fois une mise à jour de mon. Voilà, de toutes mes tâches que j'avais commencé à préparer pour mon départ, pour transmettre tout. Et donc, en fait, je suis allée pour faire cette réunion où j'avais besoin de m'assurer que tout était transmis, que tout le monde avait tout en main. Voilà, j'ai du mal à juste disparaître comme ça sans faire ça. Et donc, ouais. Une fois que ça a été fait, je pense que je me suis enfin autorisée à me dire, OK, c'est bon. Je peux tout lâcher et j'ai appelé les sages-femmes du cocon pour dire je crois que je perds du liquide amniotique. Elles m'ont dit bah, oui, viens, on va vérifier. Et donc j'ai appelé Ludo en disant ben, il faut qu'on aille à Erasme, au cocon, pour. Voilà, il y a un truc. Mais du coup, ça faisait déjà un certain délai qui était passé. Et donc, j'arrive au cocon, elle vérifie un peu pour tester, voilà. Et elle me confirme que c'est bel et bien du liquide amniotique. Et que, ben, vraisemblablement, j'ai la poche des os qui est fissurée. Donc, elle est juste fissurée. Donc, ça veut dire qu'il y a, voilà, un peu de liquide qui s'écoule. Mais c'est tout. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien.
Mais donc elle te pose la question, depuis quand est-ce que ça arrivait? Toi tu dis bah c'est depuis bah, le dîner, c'est ça?
Oui, je suis un peu gênée de me dire que c'est déjà depuis un moment, mais que voilà, que j'ai continué à faire comme si de rien n'était. Et du coup là, en fait, ce qu'elle m'explique, c'est que ben il y a quand il y a fissuration de poche des os, il y a risque d'infection. Et donc les protocoles à l'hôpital, c'est antibiotiques pour éviter voilà, toute potentielle infection. Et qu'il y a un délai, en fait, à partir du moment où il y a cette fissuration-là. Voilà, si après X heures, alors il n'y a pas un travail qui se déclenche naturellement, et ben le scénario c'est déclenchement. Et là elles me disent ben il te reste 2 heures en fait. Il te reste 2 heures pour espérer que le travail démarre. Tu peux rester ici au cocon, voilà, avec nous pendant 2 heures. Et après ça, je serai transférée vers l'équipe voilà.
Donc tu as appris tout ça sur le moment même. Tu ne savais pas qu'on allait te dire vous allez rester. Tu avais pris ta valise, je suppose, quand même.
Ouais, on avait pris la valise, sachant pas trop.
Et donc c'est en quelques paroles finalement que le scénario s'encloche. Comment tu as vécu ça?
J'avoue, ça va très vite. J'ai l'impression de pas avoir d'autres options en fait. Enfin, qu'il y a rien. Enfin, que je suis obligée de suivre en fait ce qu'on m'indique parce que je n'étais pas vraiment informée sur tout ça. Je ne savais même pas que ça existait de pouvoir avoir la poche des os fissurés, quel était le protocole dans ce cas-là. Ça, tout ça, je pense qu'on ne me l'avait jamais expliqué. Donc je le découvre en effet au moment même. En même temps, j'étais pas. J'avais pas peur non plus du déclenchement, bizarrement. Encore une fois, de manière très naïve, en fait, de nouveau, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, et je sais aujourd'hui, j'entends, mais en même temps, bon, j'y reviendrai parce que moi, je l'ai pas vécu comme tel. Que j'entends dire aujourd'hui, oui, c'est quand il y a déclenchement, c'est des contractions plus douloureuses, c'est plus difficile que si ça se fait naturellement, etc. Et ça, j'en avais même pas conscience, en fait. Donc, je savais pas que je me dirigeais vers quelque chose qui, potentiellement, pourrait être plus difficile à vivre. Donc, quelque part, je trouve que cette naïveté m'a permis de ne pas m'inquiéter plus que ça, en fait, de vers quoi je m'engageais. Et le travail, moi j'ai dit, en fait, je suis absolument certaine que dans les 2 heures, rien ne va se passer. Mmh. Je sentais dans mon corps que rien n'allait se passer. Si c'était rien passé depuis presque 24 heures, du coup, je savais que je n'allais pas commencer à faire des poiriers ou que sais-je, que ça n'allait rien changer. Et que donc, j'avais l'impression que j'avais pas d'autre choix que d'accepter le déclenchement, parce que je n'étais pas informée aussi que potentiellement j'aurais pu ne pas l'accepter ou autre. J'ai suivi le protocole.
Donc c'est comme ça que tu t'es donc éloignée du cocon, donc 2 heures plus tard, c'était rendez-vous en dessous, c'est ça?
On n'a pas attendu les 2 heures, du coup.
Ah oui.
Parce que je savais qu'en fait, il ne se passerait rien en 2 heures, et ça ne servait à rien de rester là. Il était tard le soir, parce que donc, je ne sais plus quelle heure il était, mais il devait être entre... on est arrivé par les services des urgences, donc c'était après les horaires... autour de 19h, 20h, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc c'était le soir, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire encore 2 heures là? Je dis, pour moi, on a pris la décision de directement descendre. Et donc on est descendu, on a été pris en charge du coup par l'équipe de la maternité. Je me souviens que c'était pas très très agréable ce moment-là. Je me souviens qu'on était dans une petite pièce comme ça où ils ont demandé à faire un examen, un toucher vaginal pour voir. Il y avait un peu une espèce de... ça a commencé une prise en charge un peu médicalisée. Je me souviens que ce moment-là, j'ai pas des souvenirs très précis, mais c'était pas ce qu'il y avait de très très gai. Et après, on a été du coup installés dans une chambre, puisque du coup ça allait être la nuit. Et donc, on nous a installés dans une chambre. Ludo a pu rester là aussi pour la nuit. Et du coup, on m'a mis sous antibiotiques, une perfusion intraveineuse dans le bras. Et du coup, première tentative de déclenchement. Je me souviens même vraiment pas précisément en fait des choses. Ça devait être via avec ocytocine de synthèse qui était envoyée via l'intraveineuse, il me semble. Et puis en fait on a dormi. En fait on a passé une nuit et rien ne s'est passé. Le lendemain matin, je me suis réveillée, c'était comme, toujours normal, en fait.
T'as pas eu une seule contraction
Non, il n'y avait vraiment pas de travail qui s'est mis en route. J'ai vraiment passé une nuit normale, en fait, sans... Ouais. Je sais pas très bien le dosage qui avait été mis. Je pense que ça a été fait peut-être de manière faible au début, pas de manière agressive tout de suite, pour vraiment provoquer de manière rapide. Je pense qu'à partir du moment où j'étais sous antibio, il n'y avait pas trop d'inquiétude et le but n'était pas d'absolument forcer les choses de manière rapide. Parce que donc, en fin de compte, bon, je vais raconter le détail, mais je suis donc rentrée à l'hôpital le lundi soir, autour de 20h disons. Le lundi soir, elle est... Ah, mais j'ai toujours pas dit. Je savais que c'était... je savais le sexe du bébé, j'ai pas raconté ça. Parce que là, j'allais dire ma fille, mais donc voilà, je savais que c'était une petite fille, on avait demandé à savoir le sexe, voilà. Mais donc, elle est née dans la nuit du mardi au mercredi, au final. Pour donner un petit peu un ordre de grandeur d'idée du timing. Mais donc la nuit du lundi au mardi, rien, voilà. Et c'est plus très précis dans ma mémoire, mais je pense que du coup, le mardi matin, on a remis des doses pour faire un petit peu plus intensifier les choses. Mais en fait, on a passé toute la journée entière de manière assez... Moi, j'en ai un chouette souvenir, en fait. En tout cas, la matinée, je me souviens, on était encore... j'étais complètement encore dans mon cerveau rationnel, quoi. Pour moi, c'est étrange, en fait, finalement. Mon corps n'était pas prêt, rien. Enfin, c'était pas du tout... c'était pas le timing que ma bébé avait choisi non plus. Et... peut-être que, il a fallu vraiment le temps que ça fasse effet et que moi-même, je sais pas, que mon corps se mette en travail. Parce que du coup, on était très, je me souviens, on jouait, on avait pris un jeu de Scrabble de voyage avec, genre le truc pas du tout conseillé d'être, tu vois, je réfléchissais à des mots, des lettres, genre on était dans, voilà. Non, on avait pris des magazines, Ludo était chercher des magazines, je me souviens avoir lu mon horoscope qui était assez rigolo d'ailleurs, je pense, ça parlait de, il y avait une image, je sais plus, ça parlait que, que je courais comme une poule sans tête, je me souviens cette phrase-là, que c'était quelque chose, enfin, de mon signe astrologique qui disait que ce jour-là, il y avait quelque chose, en tout cas de particulier. Ouais. Mais donc, on avait mis la musique, en fait, on était dans cette chambre, les chambres où on a dormi, en fait, on nous dérangeait pas trop, en fait, on nous a laissé vachement, tous les deux, vivre notre vie, passer le temps, en fait, et j'avais un ballon, et j'étais assise dessus, faire des mouvements. Je me souviens que c'était juste pénible, parce que du coup, j'avais un monito aussi, en continu, j'avais toujours ce truc accroché autour du ventre, ce qui surveillait en permanence, le cœur du bébé, et puis j'avais ce déambulateur avec la perfusion qui était super pénible parce que je pouvais pas me mouvoir aussi bien que je l'aurais voulu, donc je pouvais, en tout cas j'étais libre de prendre mes positions avec cette contrainte de ce truc un petit peu qui était un peu gênant, quoi. Mais j'ai vraiment le souvenir qu'on était à nous deux dans notre bulle, on venait pas trop nous voir, on était dans l'attente et ça, j'ai pas eu le souvenir que ça, qu'il y a eu quelque chose qui est venu d'un coup, en fait tout s'est fait finalement quand même de manière très très progressive, c'est ça le mot, très progressive, où les contractions, il a commencé à en avoir, mais j'ai pas eu d'un coup un truc hyper douloureux ou insoutenable ou un truc horrible qui m'aurait d'un coup fait ne plus savoir quoi faire. Donc c'est venu progressivement. Je pense que le déclenchement, ça a été dosé petit à petit, je pense, pour J'ai vraiment pas vécu quelque chose de... Ouais, de vraiment difficile ou quoi. C'était vraiment... Voilà, j'accueillais les vagues qui ont commencé à arriver petit à petit. Je me mettais dans les positions que je voulais. J'étais sur mon ballon. Je me focussais sur ma respiration. Petit à petit, c'est vrai que ça a commencé forcément à je rentrais dans un travail plus actif. Mais j'étais toujours dans le mouvement, dans l'accueil. Et je me souviens que peut-être, ouais, le temps paraissait long quand même. C'était long, tout ça. Et j'arrivais à un moment dans l'après-midi, je pense, où parfois quand même, à plus savoir trop comment me mettre pour me soulager, de ne plus trouver des positions adéquate, d'essayer de m'allonger sur le lit pour me reposer, mais pas savoir comment me mettre parce que ça devenait de plus en plus un peu ouais douloureux, mais ouais, moi j'ai jamais senti ça comme insurmontable. Voilà, je traversais les choses jusqu'à un moment, oui, voilà, j'étais quand même, comme je disais, à plus trop savoir quoi faire, comment me mettre. On était déjà, je pense, ouais, la journée, on était déjà sur la fin d'après-midi, début de soirée.
Vous étiez tous les deux à ce moment-là? Est-ce que vous
Ouais.
aviez un peu de visite de sage-femme ou
Bah,
des aides?
elle passait de temps en temps, mais voilà, pour checker le monito, pour voir comment ça allait. De temps en temps, c'est vrai qu'elle certainement parfois proposait de tester une ou l'autre position, mais vraiment pas de manière. Enfin, alors c'est moi qui étais un peu dans ma bulle, mais je n'ai pas le souvenir qu'elle était là en permanence et qu'on était vraiment guidés. Je pense qu'il y avait ce côté aussi où il savait qu'on était un couple préparé au cocon et il savait quel était notre projet naissance et qu'il nous laissait. Il voyait que j'étais pas en souffrance ou pas à ce point-là avoir besoin d'aide. J'imagine qu'il y avait peut-être d'autres naissances en même temps, hein, qu'elles étaient occupées ailleurs et que je ne semblais pas être un cas qui semblait avoir besoin vraiment de leur présence. Voilà, je ne me souviens pas plus que ça, voilà, qu'elles étaient beaucoup auprès de moi et je ne ressentais pas le besoin non plus en fait. Jusqu'à, oui, ce moment où, comme je disais, je savais plus trop quoi. Et là, je pense que est venu le moment où ils ont proposé un bain. Parce que là, il y avait une des chambres, justement, une autre chambre qui sont les chambres, enfin les pièces qui sont pour les accouchements, qui s'était libérée. Et c'est là où sont les grandes baignoires. Et du coup, elles m'ont dit, bah, si tu veux, on peut aller commencer à préparer un bain pour toi là-bas. Du coup, j'ai dit, j'ai accepté volontiers. Je m'étais dit que ça me ferait beaucoup de bien, en effet, de changer, d'aller dans le bain. Et en fait, c'était déjà le moment, le temps qu'ils préparent le bain, etc. Je ne sais pas si c'est psychologiquement cette perspective de savoir qu'il allait avoir ça. Je serais incapable de dire, en fait, ma dilatation de col et tout ça. Je pense qu'il y a eu, elles ont dû vérifier à temps à autre, alors, soit elles me l'ont dit, mais je m'en souviens plus, mais j'ai pas en mémoire, mais voilà, de savoir quelle était la progression du travail en fait. Parce que du coup, à ce moment-là où elles m'ont proposé d'aller vers le bain, en fait, j'ai eu le moment de pousser qui arrivait. Donc, j'ai senti, donc j'étais encore debout en mouvement à aller vers cette chambre, que c'est là que j'ai senti le fameux ça pousse où je sentais que ça venait de l'intérieur de mon bébé qui commençait à descendre dans le bassin et qui commençait à faire son... ouais, vraiment sa descente. Et là, j'ai vraiment ouais, ressenti ce truc-là. C'était assez incroyable. Ce truc genre, wow, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, tu peux pas aller contre ça, quoi. Donc on est allé comme ça jusqu'à l'autre pièce. On m'a aidé à me mettre dans ce bain. Et c'était déjà, ouais, en fait, c'était déjà la fin. Ouais, j'avais traversé déjà toutes les étapes voilà, de travail, de dilatation, sans l'impression de perdre pied, de paniquer, d'être, oui, ou en souffrance, quoi que ce soit. C'était juste un processus naturel que j'accueillais. Et puis du coup, on va dans cette baignoire et on m'installe. Et puis là, c'est vraiment trop chouette parce que c'est le moment où Michel, qui est donc la sage-femme fondatrice du cocon, qui allait rentrer chez elle. Je pense qu'elle avait eu un autre accouchement au cocon et elle avait terminé son service ou son temps de garde. Et donc elle est passée nous faire un petit coucou justement à ce moment-là, en descendant voir comment ça allait pour nous. Et donc elle arrivait pile au moment où en fait c'était la poussée. Et puis elle dit à Ludo, mais t'as ton maillot, qu'est-ce que t'attends pour aller rejoindre Vanessa dans le bain, pour être avec elle, pour accueillir ton bébé Et donc, il s'est exécuté, il m'a rejoint dans le bain pour qu'on soit tous les deux. Et puis, elle m'a aussi recentré, me redonné quelques mots de confiance et de conseils pour mon souffle aussi, pour comment accueillir par le souffle ce moment-là. Donc, voilà, c'était assez furtif son apparition parce qu'après, elle est repartie. Elle nous a laissé entre les mains de l'équipe qui était présente. Mais ça a été vraiment hyper précieux juste ce moment-là de l'avoir. Enfin voilà, c'était chouette. Et l'équipe d'ailleurs qui était présente, il y avait c'était un homme qui était là un gynéco du coup je pense, oui, qui était présent mais qui était hyper. Enfin c'était un jeune hyper doux et bienveillant qui m'a dit écoute, normalement, le moment, enfin la sortie du bébé, nous on ne fait pas forcément, enfin dans la baignoire, c'est pas forcément ok, mais là il a dit pas de souci, on va le faire. C'était votre projet aussi, c'était dans le projet de naissance au cocon, accoucher dans l'eau, et donc ils étaient totalement ok que je reste là dans le bain pour l'accueillir mon bébé. Et je me rappelle quand même qu'il y avait une des sages-femmes présentes qui avait l'air un peu perturbée de ne pas savoir comment se positionner parce qu'elle ne pouvait pas bien voir ce qui se passait. C'était rigolo. Ouais. Donc, on était tous les deux dans ce bain et je me souviens que c'était. Bah là, c'était bien sûr forcément fort intense. C'était des sensations très dans le corps avec le cercle de feu, et je me souviens que je me tenais très 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 fort au bord du bain et que je d'accompagner cette force qui était là, qui était présente. Et puis en quelques temps ma fille est sortie Elle est sortie, j'ai pu moi l'attraper et la prendre contre moi, là, dans le bain, avec son papa derrière moi. Et c'était trop beau, quoi. C'était magnifique ce sentiment aussi de moi l'avoir donné naissance. Je veux dire, personne n'est intervenu. C'était moi qui l'avais fait, quoi. Et c'était super beau et c'était super émouvant. Enfin voilà, on était tout émus de l'avoir enfin découvrir ce petit être tout petit qui sortait de mon ventre. C'est quand même fou. Et du coup, elle est née un peu après minuit. Ouais. Dans la nuit du mardi 5 octobre. Et puis on est rapidement sorti de l'eau, je pense, pour aller se poser m'allonger sur le lit. Et de là, vraiment, j'ai un souvenir incroyable de ce fameux premier contact de regard, en fait, de ma fille. Ce regard assez incroyable, hyper profond, d'une sagesse infinie dans ses yeux. J'étais vraiment troublée, je pense, à ce moment-là. De vivre cette connexion-là avec elle. On était super émus et d'ailleurs je pense qu'on a quasiment pas pris de photos de ce moment-là tellement on est dedans, quoi. Et ça, c'est un regret que j'ai de pas avoir ces souvenirs-là, mais bon, je l'ai quand même fort gravé en moi. Et on n'avait pas choisi son prénom On avait une shortlist, il en restait deux. On n'avait pas voulu se décider. Voilà, c'était un des deux, mais on ne voulait pas faire le choix. On s'était réservé de décider en la voyant. Et je crois que mon homme était aussi tellement ému et touché d'avoir vécu tout ça et d'avoir été témoin de cet enfantement-là que j'avais pu mener, je sais pas, que il m'a dit, ben, tu peux choisir. C'est toi qui choisis quel prénom on lui donne. Et du coup, moi, je savais déjà, en fait, je savais déjà lequel des deux ce serait. Et donc, elle s'appelle Joy. C'est la petite joie de vivre, cette petite enfant, pleine de vie. Et du coup, il y a eu la première tétée, mise au sein, le pot à pot. On nous avait vraiment laissé tranquille pendant un long moment ensemble. J'ai quasiment pas de souvenir de la sortie du placenta. C'est, je sais pas, je pense que oui, j'ai un moment, enfin si, je m'en souviens vaguement, que j'ai à un moment donné, ça s'est venu. Ben, je présume, j'étais toujours sous. Est-ce que j'avais toujours la perfusion? Je crois, hein, en fait. Je pense que oui. J'imagine, je présume, je sais même pas, en fait, qu'il y a sûrement eu un peu aussi d'ocytocine qui a dû être réinjectée pour la sortie du placenta. J'en sais même rien, en fait. J'étais très peu. Oui, intéressée à ce sujet-là où. J'avais peu d'informations, d'intérêt. Et du coup, elle est sortie. J'ai senti un peu ce soulagement. Mais je ne l'ai pas vue. On m'a pas proposé de me le montrer. Voilà. Je n'ai pas.
Vous aviez coupé le cordon avant sa sortie, tu penses?
Avant sa sortie, quand même. Ouais. Bon, on l'a laissé le cordon battre. Ouais, ça. Et moi, j'ai pas totalement occupé, focalisé sur notre bébé, que c'était pas quelque chose qui avait une grande importance pour nous. Maintenant que je connais mieux cet organe et tout ça, j'ai un petit regret de pas avoir pu l'honorer davantage. Mais voilà, c'est comme ça.
Et donc vous voilà parents. Combien de temps est-ce que vous êtes resté à l'hôpital? Et voilà, comment ça s'est passé ces premiers jours post-naissance?
Et donc, on est resté à l'hôpital jusque la fin de semaine. Donc, elle est née dans la nuit du mardi au mercredi. On a été trans. Bah, du coup, voilà, c'était, je disais, vers minuit, le temps qu'on fasse tout le temps du pot à pot, etc. Il est facilement 2 heures du mat. On est transféré en chambre. Et puis là, bah, on a dormi. Je pense que c'était une nuit quand même. Bah, y a forcément ce truc de. C'est difficile de dormir la première nuit. Enfin, moi, j'étais encore tellement sous le shoot de tout ce que j'avais vécu, quoi, ce que mon corps avait vécu. Donc, il y a cet émerveillement avec ce petit être minuscule et tout ça. Mais on est resté quelques jours, du coup, jusqu'au vendredi. On est rentré à la maison le vendredi. Et c'était assez cocoon aussi. Je me souviens qu'il y avait toujours cette playlist de musique non-stop, de musique très douce et tout dans la chambre. Et qu'à chaque fois, les sages-femmes ou les infirmières ou quoi qui venaient disaient, ah, c'est zen ici. Et je me souviens qu'il y avait un magnifique soleil, on était début octobre. Il y avait un magnifique beau temps dehors. Enfin, il y avait vraiment ce truc très, très doux et calme dans la chambre avec cette lumière dehors. Je me sentais bien. L'allaitement, il n'y avait pas. Enfin, bien sûr, c'était nouveau. Il fallait que je prenne mes marques, etc. Mais c'était pas une grosse source de stress. Je me sentais. Entourée si j'avais besoin de conseils pour la mise au sein, mais pas trop de pression non plus, et elle avait l'air de bien prendre le sein, et voilà, je dormais avec elle contre moi dans le lit d'hôpital. C'était, j'en ai un joli souvenir de ce petit moment, voilà, de découverte. On a juste eu la visite de la famille toute proche qui est venue, voilà, de manière très bienveillante. Et ouais, on découvrait notre vie de parents.
C'est une question débile, mais j'ai envie de te la poser quand même. Vous mangiez les repas de l'hôpital, du coup?
Oui, je crois.
Oui.
Ouais, c'était pas fou.
C'est pas débile, c'est pas une question débile,
Non?
c'est une question
Ah,
importante.
ah mais oui.
Et non, en fait, la vraie question, c'est est-ce que vous aviez anticipé, par exemple, voilà, ces longues journées où on a besoin de manger beaucoup, tu vois, comment vous faisiez en fait?
Non, je crois que, je te dis, hein, il y a vraiment, moi j'ai cheminé depuis, quoi. Je sais maintenant aussi à quel point l'importance de cette alimentation en post-natal pour que le corps puisse aussi pouvoir bien se régénérer, tout ça. J'étais pas consciente à ce point-là de cette importance de bien se nourrir, d'apporter tout ça pour le corps. Et donc, ouais, j'avais un peu le schéma un peu classique, quoi, de pas trop se poser de questions et de voilà, on nous donne ça, c'est comme ça. Peut-être que Ludo a un petit peu ramené des choses de la maison, mais voilà, rien de très très spécifique.
Je sais pas pourquoi je pose jamais cette question d'habitude, mais j'ai envie de savoir. Après, il y a toujours ce qui est optimal, et puis il y a aussi ce qui fonctionne. Il y a tellement de paliers entre ce qui est optimal et le reste. Comment s'est passé ton postpartum? Je vais le nommer mois d'or, mais à cette époque-là, je suppose que tu vivais pas comme ça. Et puis voilà, comment ça s'est passé donc le postpartum?
Ouais.
Et combien de temps est-ce qu'il a duré selon toi?
On est rentré à la maison. Ah oui, alors je m'étais projetée dans des choses en fait. Je me souviens que j'avais aménagé. Donc on a notre chambre, enfin notre chambre est en sous-sol et on descend un petit escalier, et puis il y a une espèce de petite pièce antichambre, disons, avant d'aller dans notre chambre. Et donc je m'étais aménagé tout un petit coin là. Dans cette petite antichambre avec un fauteuil. On avait acheté un fauteuil Togo qui est super confortable et je m'étais dit, ah, bah, je vais m'installer là pour allaiter la nuit. Et on avait eu à prêter un petit lit cododo qui était sur roulette et donc je dis, bah, je vais le déplacer de notre chambre à ce petit espace-là et j'avais aménagé un coin change là. J'avais vraiment cette croyance de genre, bah oui, la nuit, c'est moi qui vais m'occuper d'allaiter, changer mon bébé. Et pour pas trop déranger Ludo, j'irai. Bon, voilà. C'est dans un petit espace qui est à côté, qui est pas vraiment insonorisé entre les deux. Donc en soi, c'est pas tellement qu'il entendrait rien. Ouais, je sais pas, j'avais vraiment cette. Voilà. J'avais aménagé tout ça comme ça. Ce qui était totalement ridicule parce que en fait je me suis retrouvée ben, plein de fois à m'endormir dans ce fauteuil dans des positions pas forcément confortables ou m'endormir avec mon bébé sur moi dans cette bon il était super confort ce petit fauteuil là mais quand même enfin à 5 mètres de là il y avait mon lit et c'était quand même un peu ridicule quand j'y repense mais je sais pas j'avais cette image de me dire ben voilà moi je vais dormir dans mon lit puis je vais me lever pour aller allaiter, et puis après on va tous se recoucher. Enfin, je vais la remettre dans son lit, puis moi je vais me recoucher. Et en fait, bah, pas du tout. C'était pas du tout ça. Et donc, je sais qu'après, rapidement, j'ai fini par la prendre avec moi dans le lit, quoi, en vrai cododo, et pas dans ce petit lit à côté. Parce que c'était ridicule, sinon, enfin, ouais. Ce truc, j'avais vraiment voilà, des a priori de choses. Voilà. Et puis, c'est en les vivant que je me dis, bah non, en fait, je vais pas faire comme ça.
Oui, bon, comme nous toutes, si je puis dire. Je parle au nom de tout le monde. Et du coup, comment ça s'est passé les nuits avec Ludo? Lui, comment il a vécu ça, du coup, ces petits bruits, ces mouvements la nuit, c'est parfois plus que des petits bruits d'ailleurs.
Écoute, je me souviens plus très très bien, mais pense qu'on s'en a commandé pas mal. Enfin,
Tu vois, la question, c'est est-ce qu'au bout de 3 jours, il en a eu trop marre, puis il est monté dormir en haut. C'est surtout ça, la question.
Ouais, c'est possible que oui. Bah, en fait, il est toujours indépendant à son compte. Donc, tout ce qui est congé paternité, il n'avait pas trop... il était son propre chef, quelque part, mais quelque part avec des responsabilités et la nécessité de... Voilà, il n'avait pas de congé payé s'il s'arrêtait de travailler. Donc, il a assez vite repris le travail, en fait. Et donc, je me suis très rapidement retrouvée seule à m'occuper de notre fille. Donc, de fait, c'est bien possible qu'il ait dû faire parfois plus d'aller migrer vers... vers le salon pour s'assurer d'avoir des nuits reposantes, pour être en forme, pour aller au travail. Mais moi, je sais qu'à l'époque, je le vivais pas trop mal. Moi, j'étais assez OK, que c'était comme ma charge, en fait, en tant que maman, d'être comme ça dans ce maternage et qu'avec l'allaitement, c'était... Voilà, je le voyais assez comme ça à l'époque.
Est-ce que tu as eu un congé maternité de 3 mois ou plus ?
Oui, j'avais prévu, je crois qu'on l'avait inscrite, on devait inscrire en crèche en fait. Et déjà, tôt dans la grossesse sans savoir se projeter en fait, qu'est-ce que ce serait. Et donc, je pense qu'on l'avait inscrite pour ces 4 mois, je crois, parce que j'avais pris le traditionnel congé mat, que j'avais quand même prolongé un peu plus d'autres congés que j'avais, etc., mais sans me dire que ça allait être plus long que ça, j'étais un peu dans ce schéma classique de reprise du boulot au bout de X mois, vraiment dans cette vision-là, à l'époque. Et j'ai un souvenir de tout ce temps assez... encore une fois, plutôt doux. L'allaitement se passait bien. On avait une sage-femme qui est venue à la maison au début du postpartum. C'était la saison un peu automnale, puis début de l'hiver. On était un peu dans notre petit cocon. Là aussi, à l'époque, je l'ai assez bien... vécu de manière... j'étais un peu dans ma bulle, en fait. Et assez rapidement, en même temps, j'étais très... dans une optique de me dire, la vie continue avec un bébé. Et j'ai pas mal bougé. Je faisais du portage. Et du coup, je partais aussi promener avec elle pour sortir de la maison, pour aller voir... aller voir des amis, faire des lunchs et tout. J'étais un peu dans ce mouvement-là aussi, de ne pas rester isolée chez moi, toute seule non plus tout le temps. Et un peu ce côté, finalement, j'ai beaucoup pris sur moi, de dire, je reste active, je reste beaucoup dans... prendre en charge beaucoup de tâches. J'étais très... dans tout le temps de ma grossesse aussi, j'étais beaucoup dans cette recherche de tout était nouveau, qu'est-ce qu'il fallait prévoir comme matériel pour s'occuper d'un bébé. Et je me suis beaucoup plongée dans une démarche aussi très écologique aussi, durable, de vouloir j'ai fait beaucoup de changements de choix, enfin de changements de mode de consommation aussi, et de vouloir le meilleur en fait pour ma fille, de faire des couches lavables, de choisir des choses qui étaient dans des matériaux bio, éthique, tout ça. Enfin, je sais que ça m'avait beaucoup occupé l'esprit pendant la grossesse de faire toutes ces recherches, ces comparatifs, tout ça avait été très très présent. Bon, au final, c'est comme ça, mais... Donc, il y avait ça, cette vie-là.
Merci pour votre écoute. Si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.